Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde. Alors, nous allons avoir trois invités exceptionnels pour en parler. Le troisième ne va pas tarder à nous rejoindre. Mais pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous présenter le thème et nos trois invités. À la frange de la science-fiction, il existe une zone grise qui sépare vaguement la réalité de la fiction, de la légende urbaine et du mythe, sans parler des théories du complot. Soucoupes volantes, tunnels cachés, sociétés secrètes, enlèvements par des extraterrestres, reptiliens, la liste ne cesse de s'allonger. L'être humain est-il réellement allé sur la Lune ? Ne réglez pas votre téléviseur. Pour évoquer ce thème, trois invités ce matin. Ada Palmer, votre saga Terra Ignota explore un 25e siècle utopique où les États-nations ont cédé la place à des organismes, les ruches dans lesquelles des milliards d'êtres humains se répartissent par affinité. Les cinq livres du cycle associent un univers de science-fiction riche en voitures volantes et en ascenseurs spatiaux, au style des romans philosophiques du 18e siècle, mais également d'Homère. Vous êtes professeur d'histoire européenne à l'Université de Chicago. Vous étudiez la censure, l'inquisition et les intellectuels radicaux de la Renaissance et des Lumières. Xavier Dolo, vous êtes auteur et éditeur, amoureux des littératures de l'imaginaire. Vous avez obtenu la plupart des prix dans ce domaine, dont le Grand Prix de l'imaginaire, le Rony, le Prix Imaginal de la Nouvelle. Vous avez publié aux Humanumades Associés une histoire de la science-fiction en bande dessinée, un ouvrage assez extraordinaire, avec Djibril Morissette Fan. Bande dessinée qui a été publiée aux États-Unis et dans six autres langues. Et enfin, notre troisième invité, qui j'espère, actuellement il fait usage de son pouvoir d'invisibilité, mais il va réapparaître, l'extraordinaire Jean-Pierre Dionnet, producteur, scénariste, journaliste, éditeur de bande dessinée, animateur de télévision. Il a cofondé le magazine Métal Hurlant, la société d'édition Les Humanumis Associés, découvert ou introduit en France de nombreux auteurs de bande dessinée, joue un rôle décisif dans la bande dessinée contemporaine. Il a participé à la création de l'émission Les Enfants du Rock et en cinéphile averti, il a présenté pendant de nombreuses années l'émission Cinéma de quartier sur Canal+. Et Jean-Pierre Dionnet a reçu aux Utopiales hier le prix extraordinaire pour service rendu à la science-fiction. Alors ma première question, dans ce fond, ce fatras, on pourrait dire, très hétéroclite de légendes contemporaines, de théories du complot, reptiliens, soucoupes volantes, les Atlantes, etc. Ada Palmer, parmi ces thèmes, y en a-t-il dont vous vous êtes déjà emparé dans votre œuvre, ou bien est-ce qu'au contraire, vous vous tenez éloigné de ces sujets qui peuvent être périlleux ?
I would say that one of the things I treat in the books is the question of whether the anxieties that lead to conspiracy theories and to paranoia can also be channeled more positively rather than more negatively. So the world building of Terra Ignota, excellent, our invisible guest is no longer invisible. The world building of Terra Ignota involves a number of large global political units which formed in the aftermath and in the beginnings of a war, another world war, which comes in the 22nd century, the early 22nd century. And those political groups developed as ways for people to escape or seek safety in the midst of chaos. And a number of them were born out of corporations, one of them was born out of science fiction fandom, but one of them was indeed born out of a conspiracy theory, specifically the conspiracy theory that the Masonic lodges and the Masons have been secretly controlling history for a long time. And it's an instance where, in the midst of fear, people who had the chance to channel anxiety managed to channel anxiety to create something constructive rather than something destructive. I work a lot with a colleague in my history department, Kathleen Ballou, who studies the history of white supremacy and racism in the USA, and especially of the KKK. She, like me, with my dissertation on censorship, her dissertation on the KKK, when she did it, everyone thought it was an unimportant, marginal topic that would never matter again, and we really wish they were right. She is now working on a book on the relationship between science fiction and white supremacist recruitment. And it's fascinating to note that while there's lots of wonderful, progressive, positive world-building science fiction, there are science fictional narratives that are preyed upon by extremist recruiters, especially post-apocalyptic or apocalyptic narratives. There are so many science fictional stories about a crisis arising and then an unimportant person suddenly becoming the protagonist and becoming the hero and having the shotgun and saving the day against the zombies. And that particular power fantasy is one that is widely preyed upon by extremist recruiting groups, especially in the USA. That became worse during COVID. Because when the pandemic began, it felt to a lot of people who had that kind of power fantasy like today has finally come. The plague is coming, civilization is gonna fall. I, with my collection of guns, I'm gonna suddenly be the hero and save the day. And it didn't happen, because instead of the world all dying and needing people with shotguns, the world turned into soup kitchens and pop-up help groups and everyone constructively wearing masks and staying home and saving the day through collective pacifist action. And that resulted in a lot of people whose power fantasy that had been, who, you know, went home every day saying, well, the world is gonna end soon and I, with my stash of canned food and guns, will soon be the hero of it, felt betrayed and had lost their fantastical dream when COVID didn't result in the kind of apocalypse that made that person a hero. And thousands of those people have now been recruited by extremist and violent groups within the US. So it's very interesting to me to look at when anxieties and the fantasies that those touch, many of which come from science fiction, whether it's our stories we like to tell about conspiratorial groups like the Masons or the stories we like to tell about apocalypses, what kinds of factors can make those energies be channeled into constructive purposes or into destructive purposes? And whether we can craft our narratives and our dialogues to help support the constructive versions more and to help reproduce the destructive versions less frequently. Complex answer, but complex question.
Thank you. Xavier Dolo, dans votre travail d'auteur, dans votre œuvre, est-ce que vous avez déjà joué à faire des variations sur ces thèmes ou est-ce que vous vous en tenez éloigné?
J'ai pu en faire, j'en ai pas publié, je dirais, a priori. Mais j'ai beaucoup fait, pour moi-même, des parodies d'un auteur français qui s'appelle Jimmy Gueux.
Voilà. J'espérais qu'on en parlerait.
Évidemment qu'on va en parler parce que Jimmy Gueux, ben, c'est un auteur phare, on va dire, des années 50-60, notamment dans une collection bien connue, hein, qui est le Fleuve Noir Anticipation, qui est la collection populaire en France avec les célèbres couvertures de Branton. Et Jimmy Gueux est un des auteurs qui a le plus publié dans cette collection. Mais il est aussi extrêmement connu, alors pour ses médiocres romans de SF bien sûr, mais aussi pour s'être intéressé à tout ce qui finalement touche un peu à la pensée magique, hein, on pourrait presque le globaliser comme ça, donc les histoires de complot, les histoires d'extraterrestres, hein, évidemment, et puis plein d'autres choses finalement qui peuvent être très anecdotiques, mais qui sont assez amusantes. Par exemple, dans un de ses romans, j'avoue que j'ai oublié le titre de ce roman, il en a écrit tellement. Il parle d'un phénomène, son roman est basé sur un phénomène qui s'appelle la parbrésite. Voilà, vous voyez. Effectivement, ce phénomène, il s'est intéressé, avec une petite note authentique évidemment dans son roman, puisque c'était le spécialiste de la note authentique, hein, il s'est intéressé à des phénomènes qui se sont passés en 1954 aux États-Unis. et en France, des phénomènes qui se sont déroulés de pare-brise qui explosait sans aucune explication, mais on voyait une petite lumière au loin. Et bien, très vite, effectivement, cette pensée magique, elle s'est mise en action. Et cette pensée magique, elle s'est tournée, en tout cas du côté de Jimmy Gueux, vers la présence d'extraterrestres qui, se servent en fait de technologies qu'on ne connaît pas pour détruire nos pare-brises. Voilà, donc c'est quand même très très vache de la part des extraterrestres de faire ça. Mais oui, ça participe à cette idée en fait que finalement on commence à avoir, ou on peut en fait avoir des croyances irrationnelles qui sont basées en fait sur des faits réels, hein, puisque personne n'a pu nier ces pare-brisites en fait. Voilà, mais c'est finalement l'escalade qu'on en fait autour de choses plutôt irrationnelles ou a priori irrationnelles comme la présence d'extraterrestres sur Terre qui est intéressante. Et en tout cas chez Jimmy Gueux, il pousse toutes ces thématiques très très loin pour notre plus grand plaisir de lecteur.
Jean-Pierre Dionnet, dans Métal Hurlant par exemple, est-ce que ça vous est arrivé de publier des articles sur ces sujets un petit peu aux limites de l'ésotérisme ou de l'irrationnel, et est-ce que vous le referiez aujourd'hui ?
Oui, on l'a fait. Oui, je le referai aujourd'hui. C'est-à-dire que Métal Hurlant, c'était pas moi. C'était moi quand je signais moi. C'était le contraire de moi quand je signais Joe Staline, ce qui me permettait d'être d'une incohérence totalement absolue. Je vais vous donner un exemple précis que j'ai retrouvé l'autre jour. À un moment, il y a Jean-Pierre Dionnet qui dit « Le racisme, on va s'en débarrasser le jour où toutes les races se seront mélangées tellement qu'on ne saura plus quelle est l'origine. » Et Joe Staline avait dit « Non, non, moi, je voudrais qu'on fasse des réserves pour garder la pureté de la race, des Inuits et autres, etc. Et si on se mélange tout, on va perdre ce qui fait la singularité, par exemple, de cet peuple nomade. » En fait, je pense les deux. Mais moi, personnellement, il y a ce que disaient les auteurs de Métal Hurlant, et en gros, 80%, j'étais plus ou moins d'accord avec eux, mais ils étaient cohérents, donc j'étais d'accord. Personnellement, moi, je pense que, en ayant oublié mes origines, je suis un tout petit peu un extraterrestre, parce que j'ai beaucoup de mal à vivre dans le monde réel. C'est-à-dire, par exemple, je suis dyslexique au niveau géographique totalement. Si je vais aux toilettes, je sors par le placard à balai et je me trouve enfermé pendant 4 heures. Si on me dit c'est tout droit et après c'est la première à gauche, eh bien, je me trouve perdu dans la ville. C'est-à-dire que je fais preuve d'une très grande appétence à ne pas comprendre vraiment. Je peux oublier totalement de déjeuner pendant 2 jours. Et puis à ce moment-là, la femme rattrape. Mais personnellement, et si je remonte parmi ma famille d'extraterrestres, je dirais que j'ai grandi pour partie dans la Creuse. Et là, j'ai grandi avec les légendes qui n'étaient pas du tout urbaines. Mon arrière-grand-mère avait donné une miche de pain à un meneur de loups qui était avec tous ses loups derrière. Et comme elle a donné la miche de pain, le meneur de loups est parti. Il l'a laissé tranquille. Toutes les histoires. Il y avait un village dans la Creuse où les cochons et les sangliers s'étaient croisés les uns les autres. Et il ne fallait pas y aller parce qu'ils ils mangeaient les humains. Ça, j'ai eu l'explication plus tard. Ça correspondait à la zone où il y a eu une école d'enfants juifs pendant la guerre que les nazis n'ont jamais trouvée, sachant que la Creuse, la seule région de France où il n'y a presque pas une nazie, il n'y a eu que 2 miliciens. Et ça avait été lancé à propos de ce village maudit des sangliers pour éviter que des gens aillent fouiller du côté de l'école où il n'y avait que des juifs. Alors, les complots, j'y crois. Mais si vous voulez, là, c'est un petit complot qui consistait à dire « Regardez ailleurs et vous ne voyez pas ». Alors, quand je déteste les gens qui mettent sous le tapis des choses en disant « Ouais, mais ça, c'est encore une histoire de complot ». Bah, dans les histoires de complot, si on regarde par exemple toute l'histoire de l'espionnage, il n'y a que ça. Et puis, dès que quelque chose dérange, c'est un complot. Donc, je me dis qu'il y a complot et complot. Je trouve que la rationalisation de tout, vouloir absolument tout expliquer au fur et à mesure que ça se passe, ça ne fonctionne pas. Je pense que la logique est floue. Je pense que ce qu'on appelle les légendes urbaines ou les légendes machin ou la fille sur l'autoroute qui apparaît, qui disparaît et tout, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être vrai quelque part et peut-être que ça devient vrai à force d'y croire par suggestion. J'ai été très marqué par ce film formidable qui était La Maison du Diable de Robert Wise, d'après Shirley Jackson. Et je me souviens de Jean Boulet, qui était un précurseur là-dessus, secrétaire de Sacha Guitry, collaborateur de Vian, et puis qui a inventé la première librairie de bande dessinée. Lui, il me disait, c'est très, très simple. C'est l'histoire de cette très belle femme brune et de cette très belle femme blonde qui sont dans cet endroit un peu censé être ensorcelé, mais comme elles dorment dans la même chambre, qu'une a des désirs lesbiens qu'elle réprime et l'autre serait assez ouverte, eh bien elles provoquent des phénomènes dits surnaturels, par exemple le déplacement de leur lit l'un vers l'autre, pour vaincre la frustration. Et donc, elle, parce qu'on sait bien que toutes les histoires de maisons hantées, de fantômes, c'est souvent à la période de l'adolescence. Et ça, j'y crois. Alors, de là à vous dire, par exemple, que les maisons hantées existent, je vais vous dire non. Ah si, moi, j'en ai visité une. Et j'ai vu un fantôme.
Il y a dans un certain nombre de théories, on va essayer de se rapprocher un tout petit peu de la science-fiction. Le fantastique, ça m'intéresse beaucoup, mais on va essayer de se recentrer.
Si vous commencez ce vieux débat éternel qui est qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce qu'elle est fantastique, je vais vous dire, en a pour 20 ans.
Non, mais on va essayer de parler peut-être plus des soucoupes volantes ou des Atlantes ou des reptiliens que des fantômes. Mais voilà. On pourra parler des fantômes en coulisses après. Les années 70 ont été très prolifiques en publication. Ésotérique au sens très très large sur justement les sujets que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le fait que peut-être dans un passé très lointain, des extraterrestres sont venus nous rendre visite, ont aidé la construction des pyramides ou ont laissé des vestiges. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la science-fiction dans la popularité de ces thèmes? Comment s'articule l'imaginaire de la science-fiction, qui est donc une littérature, un cinéma où on invente des histoires, et cet imaginaire un peu plus brumeux où on commence à croire à des choses qui sont assez difficiles à prouver scientifiquement. Ada Palmer,
je vais être très très rapide, ouais. Et après, je pense qu'Ada Palmer, que j'admire beaucoup, pour en dire plus que moi, j'allais dire que la science-fiction, par rapport à cette espèce de mythologie qui précède la science-fiction, souvent, en essayant d'étendre, de rendre la chose crédible et tout, décrédibilise un peu, parce que je pense que le monde réel est plein de choses, de coïncidences, de trucs improbables, alors que la littérature ne peut pas se le permettre. La littérature doit être crédible. Le monde réel, souvent, il y a des coïncidences ahurissantes. Ce qui fait que la science-fiction, elle étend le sujet, elle le rationalise, elle nous plaît, elle nous amène à suspense, mais en même temps, je pense que ces livres un peu sauvages, faits souvent par des fous dangereux, ont quelque chose d'autre qui est, peut-être pas une maladie mentale, parce que je pense que les maladies mentales, il y en a qui sont incapacitantes, il y en a d'autres qui sont comme certaines formes d'autisme. C'est une manière de voir autre, tout aussi valable, mais qui n'arrive pas à communiquer avec le plus grand nombre. Donc, évidemment que la science-fiction, moi, me ravit et tout. Je me souviens d'avoir parlé, par exemple, avec Fritz Leiber, qui a fait les deux, qui a fait des bouquins de science-fiction prodigieux et qui a fait des bouquins de fantasy prodigieux. Fritz Leiber, lui, disait « Tout a été dit dans les textes fondateurs. » Pour lui, c'était nordique. Il dit « Et maintenant, j'en fais quelque chose que j'applique au monde contemporain. » Mais quand dans Le Vagabond, une fusée apparaît et qu'un homme va faire l'amour avec une femme chat, par exemple, il dit « Mais en fait, c'est la mythologie que je remets avec du métal autour. » Donc, je vais laisser la parole à d'autres parce que justement, je suis aussi incompétent sur le rationnel qu'on peut l'être. Je sens des choses, je ne sais pas toujours les formuler. D'ailleurs, quand j'ai fait des BD, j'ai jamais su formuler des théories cohérentes. Je suis assez fan de l'incohérence et des zones de flou et de ce qu'on voit à la périphérie du regard, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir vu. Alors, j'aime bien des écrivains qui, sans complexe, sans problème, sans se poser ces fausses questions peut-être, peut-être parce qu'ils sont plus ancrés dans le monde, Ada Palmer en est la preuve, arrivent à aménager ça dans le monde où on vit. Moi, je ne saurais pas.
Ada Palmer.
So, two thoughts. One about the question of rationality and the ways that conspiracy theories are rational or not. And then another about your question about when we write about them and the responsibilities we can take. I think it's very easy to think of belief in conspiracy theory as irrational, but I think it's more useful to think of it as people who are reaching for a simpler, more intuitive explanation that nonetheless feels rational, when the real explanation of how something works is just so complicated as to be overwhelming. And you know, when you say why, even though the vast majority of people in the country, when you poll them, want A, does the government constantly do B? The real answer is, well, there's all these complicated structures and it has to do with geography and different regions and the different age groups that have a tendency to go and not go vote and, you know, which percentage of the population is employed in hourly labor versus having a salary, blah, 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 blah. And it's much easier to say, well, there's a conspiracy that is making that happen, and it has three leaders, and they're this, this, and this, and this is their goal. And that is so much easier to understand. It feels like a better explanation than the real one, because the real answer is Earth is so complicated that it takes, you know, a PhD or several PhDs to figure out why the heck the government did A when the people want B. Because there are, in fact, hundreds of different factors going in. And this is where I like to think about Renaissance Florence, which is usually my historical research home these days. When the Black Death arrived in Florence, time for the government to swing into action, right? The plague, which they'd heard rumors of, is here. It's an emergency. What do? We have a quick, speedy medical policy, and we put into place our medical policy, which is double the penalty for serving meat from male and female animals in the same meat shop. Because the theory was that male and female, when you mix them, make babies and make life. And so if male and female animal juices are getting on stuff, it'll make life if they mix, and that'll accelerate the plague, and that's bad. And they're totally wrong, but it isn't irrational. It's based on the best science they can wrap their heads around when they don't know about cells and they don't know about fertilization, they don't know about germs, and they don't know about bacteria yet. And we can call it stupid and we can call it irrational, but that's an unhelpful way to think about it. It is the way people could make sense of something given the knowledge they didn't have of bacteria. And similarly, a modern day conspiracy theory often is someone who doesn't have a strong background in sociology, you know, social institutions, who hasn't been given a good social science class on how government works, is trying to figure out how government works and is offered an explanation that does make sense and holds on to that explanation that does make sense. And I think if we try to think of the destructive theories as irrational, we will be unsuccessful in opposing them. We have to recognize them as rational, but for someone who's clinging to a simpler explanation because the more complicated explanation is overwhelming, how can we then try to make that complicated explanation less overwhelming? And how can we try to show the inadequacies of the conspiracy theory explanation in a way that recognizes that there is reason behind it? And that doesn't call the person stupid, but that in an opening up the door, constructive, positive way says, well, actually, it's more complicated than that. Let me tell you the awesome story about the history of this institution. So that's the first thought, is recognizing the rationalness on an intuitive rationality level of conspiracy theory. The other one, which will be briefer, I promise, relating to that is simply the we tell a lot of stories about keeping secrets in our fiction. Think about how many good guys in our fiction hide the truth from the public, right? Buffy the Vampire Slayer. Why is this not about the public should be made aware of the existence of vampires? This is a dangerous threat. Why are there so many, you know, there are gods running around and they have kids. Why aren't we telling the public about the existence of God? There are ghosts. Why aren't we telling the public about the existence of the afterlife? There are aliens. Why aren't we telling the public about the aliens? Often the answer is a structural fiction choice. We want this to be close to real world Earth, and we like stories where our heroes have the secret knowledge, and so they're doing the secret thing. And there's that incredibly informative moment at the very end of the first Indiana Jones film when we've found, you know, the lost ark, and we have proof of the existence of God. So we shove it in a warehouse, and it's lost. And that's just sort of accepted as normal and creates a world where, in fiction, it is absolutely universal and normal for the government to be hiding the biggest secrets in the universe from us. And we just sort of accept this as the fictional normal, right? To the degree that I think many of us who saw the film The Martian experienced this profound moment toward the beginning when the scientists are looking at the screen and they see the images that prove that they accidentally left a guy on Mars. And they turn to each other and say, well, we work for the government, and by law we have 24 hours to inform the public, so let's get a press conference together and inform the public. And they didn't hide it. And that's the only time I've ever seen that in a film or on television. Because the government always hides the thing. And the good guys always hide the thing. And that is censorship. But we perpetrate this narrative that censorship and silence are normal if it's the government, and okay if it's good guys doing it for good motives. And I think we want to question that and say, why do we want to portray worlds where it's normal and accepted and universal that the government will keep these secrets? Why do we want to portray that over and over? And why do we want to portray over and over that it's fine and okay for the good guys to keep the most important truth in the universe away from the public? Because that's what good guys do, question mark? We tell this story so often without questioning it because it's a formula, it's a trope, it's fun. But if we start questioning it, we realize we've been teaching all of these conspiracy nuts that the government always lies and that the most important truths are always kept from the public. We have been told this by every single episode of Buffy the Vampire Slayer and The X-Files and every Transformers movie and every Marvel movie. Why are we surprised if people think it's true when we have told that story to them 1,000 times? We should think about that as we write our new stories.
Thank you. Xavier Delo, peut-être sur ce sujet.
Moi, je crois que les hommes sont allés sur la Lune à bord d'une Ford Thunderbird.
Vous croyez, vous en êtes sûr ?
Ah, j'en suis sûr. À bord d'une Ford Thunderbird. Voilà. C'est dans un livre de Ian Watson qui s'appelle Les Visiteurs du Miracle. Donc, je pense qu'il disait la vérité, il rapportait la vérité, voilà. Comme dans X-Files, on rapportait la vérité, évidemment. Moi, j'aime énormément cette série, X-Files, hein, c'est une série qui m'a beaucoup formé. Et c'est vrai que d'en parler avec Adam, moi, je trouve ça vraiment super, parce que, en fait, c'est une série qui mélangeait tellement de choses. À la fois la théorie du complot, évidemment, la théorie des aliens qui sont parmi nous, mais on ne sait pas vraiment, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment, on ne sait pas, c'est peut-être pas des aliens. Et puis, en même temps, on pouvait passer d'un épisode où on disait, tiens, on va parler d'une créature mythique mexicaine, le Chupacabra, voilà, par exemple. Et en fait, c'était une série où finalement, comme les deux enquêteurs étaient de, à leur façon, en fait, à la fois crédules et incrédules, ils se complétaient extrêmement bien. Eh bien, effectivement, ça apportait encore plus de réalisme sur la matérialité des choses qu'on nous présentait dans cette série. Et donc, effectivement, c'était hyper fascinant, quoi. Moi, je trouve de regarder X-Files ou une série. Alors, j'ai le t-shirt hein, aujourd'hui de Fringe, par exemple, qui est une de mes séries favorites. Bon, voilà, et qui fonctionne un petit peu sur le même genre de système, justement, et de théorie du complot, mais aussi à la fois de l'existence de choses autres, finalement, dont on accepte la matérialité et l'existence.
Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments le
Just very briefly, one of the in the course of the X-Files, by my count, Mulder and Scully proved the existence of God and the afterlife 32 times, and yet the only thing they were trying to expose to the public was the aliens, and not the fact that they talked to the devil 11 times and saw people come back from the dead 6 times and traveled to the afterlife and back once. And yet somehow the aliens are the only thing they're trying to expose. It's just fascinating that that narrative could work. And it did work, and I loved it. And yet when you zoom out and think about it, the messaging within it is really strange.
Là, vous évoquez tout un tas d'exemples qui viennent de la fiction. Hein. X-Files, ce n'est pas une série documentaire. Ce sont des histoires inventées qui sont mises en scène pour nous distraire. Qu'est-ce qui fait que ces thèmes s'imprègne à ce point dans l'imaginaire qu'un certain nombre de gens, et je ne dis pas ça de façon du tout péjorative, croient à ces histoires. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la rationalité ne va pas jusqu'au bout? J'ai lu quelques articles sur Wikipédia sur les sujets comme les reptiliens, il y a des choses passionnantes à lire. Bon, on apprend qu'en 2013, une enquête aux États-Unis révèle que 4% des personnes interrogées pensent que des reptiliens humanoïdes contrôlent nos sociétés. Comment le discours rationnel peut essayer d'atteindre ces 4% de personnes?
People quote that one often as a proof of rationality. But the humanoid lizard theory is a variant of an anti-Semitic theory about a Jewish conspiracy, which has been promoted by different governments and anti-Jewish organizations since 1370. And this was broadened in Spain under Ferdinand and Isabella, and then there were discussions of it in the 1500s, in the Renaissance, in which they tried to oppress it, but then it came out again in Eastern Germany and Poland. And, you know, why do people believe that? Well, it's not surprising if enormous, powerful governments and multinational organizations have, in fact, been promoting this theory for 500 years. It sounds like it came from nowhere when you just describe it as people think that it's lizard people. But the lizard people is the latest iteration of a very old, very strategic, very intentional, politically motivated genocidal narrative that has been being strategically repeated by different organizations for a long time. You can find it in World War I propaganda spread by, of all people, Britain. You can find it in World War II propaganda all over the fascist world. You can find it in the 19th century in some of the conspiracy theories about why Napoleon was able to return to power after Elba. So again, it's not as irrational as we make it be. Very often these things are descended from stories we've told, whether they are stories we have told with a malicious governmental intent, the way the lizard people origin one was, or whether it's the X-Files. But often, just as when you zoom in on why did the government do that thing, the answer is very complicated. When you zoom in on why do people in the U.S. think lizard people are controlling the world, the answer is very complicated and much more rational than you would think. FYI. Research, do it.
Je vais prendre un autre exemple. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à un thème qui a été très prolifique en science-fiction, qui est celui de l'Atlantide. Alors, quand vous faites une conférence publique sur l'Atlantide, vous expliquez en détail à quel moment ce motif est inventé et comment ensuite, depuis Platon, il ressurgit pendant la Renaissance, etc. À la fin, il y a des gens qui vous disent « Bon, d'accord, j'entends bien tout ce que vous dites, mais quand même, on va peut-être un jour la découvrir, l'Atlantide. » Et là, on ne sait pas comment continuer.
C'est comme la ville 10, voilà, c'est vraiment toutes ces légendes en fait, qui passent et qui finalement appartiennent à notre conscience peut-être primitive, peut-être, voilà, qui est le résultat de notre humanité lointaine aussi, où en fait on a eu des croyances, on aura toujours des croyances, et on aura toujours cette faculté en fait, à croire en quelque chose. Voilà, ça me semble évident. Ça peut aussi venir de ce qu'on me disait. Alors moi, quand j'étais plus jeune, que c'était si j'aimais ces choses-là, parce que effectivement, je lisais beaucoup de Jim Gieu et de choses sur l'ufologie quand j'étais plus jeune. On me disait non, mais c'est le syndrome de Peter Pan. En fait, hein, t'as pas envie de grandir, en fait. Donc c'est pour ça que tu t'intéresses encore à ces choses-là et que tu continues d'avoir des croyances. De ce style.
Et quand vous lisiez des textes d'ufologie, c'était parce que ça vous amusait ou c'est parce que ça vous troublait intellectuellement ? Est-ce que il y a une part de vous qui se disait oui, tout ça se tient ?
Ah oui, moi ça me fascinait parce que mon Jim Gieu à 14 ans, je l'adorais, hein, et je lisais son roman Vérité. Attention, c'était un roman Vérité, c'est important de le dire quand même, hein, parce que c'est une sorte de témoignage ou de reportage finalement, où il nous racontait que, eh bien, on avait subi une invasion d'extraterrestres qui s'appelaient les EBE, donc les entités biologiques extraterrestres, et puis on peut les appeler les petits gris, par exemple, hein, mais attention, il y avait des gris à police, il y avait des gris à poil, voilà, c'était les plus méchants, hein, voilà, mais en fait, ça c'était plutôt rigolo en soi, mais dès qu'il commençait à raconter sous forme de reportage les abductions, par exemple, des êtres humains par des aliens, alors oui, effectivement, ça ouvrait complètement mon champ de fascination, évidemment, quoi, donc oui, j'ai été longtemps fasciné par les aliens, du coup, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, et quand je lisais l'essai de Jim Gieu justement qui s'appelle Attention, les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, dont la suite qui s'appelait Blackout sur les soucoupes volantes était préfacée ou postfacée par Jean Cocteau, on disait qu'il y avait quand même une certaine volonté de nous dire que oui, voilà, ça c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est réel, et attention, parce que vous pourriez très bien être abducté.
Ouais, il y a quelqu'un qui, toute sa vie, s'est intéressé aux UFO, aux objets volants identifiés, aux soucoupes volantes et tout, de deux manières. C'est Carl Emmanuel Jung. D'une part, il en a fait un de ses archétypes principaux, le bouclier volant et tout. Il était sûr que c'était un archétype qui était imprimé dans tous nos cerveaux et qui revenait constamment. D'un autre côté, il est très profondément troublé par les apparitions de soucoupes volantes. Et à la fin de sa vie, il disait « Je ne sais toujours pas. Est-ce que c'est des archétypes ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. » Et dans plein de domaines, moi, je me dis qu'on ne saura peut-être jamais. Peut-être que l'Atlantide n'a pas existé, mais peut-être qu'il y a eu d'autres continents disparus qu'on a oubliés et qu'on a une vague mémoire métaphorique ou réelle. J'ai l'impression, si vous voulez, que au moment quand tout le monde croyait que la Terre était plate, eh bien, les gens fonctionnaient très bien sur cette Terre plate. Ils avançaient, ils faisaient des inventions, ils faisaient des découvertes et tout. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, peut-être, elle était plate, puisqu'ils y croyaient.
Elle est plate.
Alors, vous allez me dire, c'est totalement idiot. Non, puisqu'ils fonctionnaient avec une Terre plate.
There was never actually a period when people thought the Earth was flat. They always knew it was round. The myth that people used to think the Earth was flat is a myth that was invented in the sort of 18th and 19th centuries to celebrate how important Columbus was and inflate it. But people have always known the Earth was round. You can figure it out with geometry.
You kill
Everybody
me.
Everybody knows it. Yeah.
You just kill me.
There was never
Give
such
Give me a quick
era.
Guess, please.
On ne vient pas aux utopiales pour rien.
There were periods when they thought there was no land in the southern hemisphere and that everything was on top. And there were also periods when they had different ideas about geography. So, for example, Vikings thought that if you went further north, it got colder and colder. And if you went further south, it got hotter and hotter until the South Pole was on fire. Which, if you're in Iceland, makes perfect sense because you've never been far south enough to know it gets cold again. They also thought that if you went east, people got richer and richer until the world was made of gold. And that if he went west, it was water forever. But there's this very interesting modern myth that earlier people thought the world was flat. But the large majority of people in history who have ever thought the world was flat are in fact alive right now and are the weird flat earther subcommunity, which is larger than any real historical population that ever thought the earth was flat, which is another fascinating commentary on conspiracy theory.
On va peut-être prendre des questions de la salle, avec priorité aux reptiliens et aux atlantes, s'il y en a.
Rassure-moi. Ah, il y a un atlante là, il y a un atlante.
Mais rassurez-moi, on vit bien sur le disque monde. Hein.
Bonjour, merci pour cette table ronde. Juste s'il y a quelque chose que pourtant je pense que Xavier Delot doit connaître, c'est une partie, alors je ne sais pas si elle est petite ou grande, des ouvrages de Jimmy Q, donc de droite, extrême droite, avait été écrite par Roland Wagner, donc de gauche plutôt anarchiste, où il s'amusait d'ailleurs à mettre des idées de gauche dedans ou des trucs aussi bêtes ou extraordinaires que justement le pare-brise qui éclate. Donc je ne sais pas lesquels venaient de Gieux et lesquels venaient de Wagner.
Oh bah oui, il connaissait très bien l'œuvre de Jimmy Gieux, il la connaissait tellement bien qu'il en a écrit de toute façon sous le nom de Jimmy Gieux. Hein. Quand il avait sa collection chez Vaugirard, aux Presses de la Cité, il a écrit sous pseudonyme de Richard Wolfram notamment, voilà. Mais il a aussi écrit effectivement des parodies sous le nom de Jim Dieu, voilà, et qui sont quasiment introuvables. Je pense qu'elles ont été rééditées aux éditions Armada, mais c'est vrai que vous pouvez découvrir Jimmy Dieu en lisant un jour un livre de Jimmy Dieu, ça suffit, hein, parce qu'après c'est toujours les mêmes. Et puis vous pouvez tomber malade hein, en l'ayant lu. Mais si vous trouvez les parodies de Roland Wagner, après, oui, alors là par contre vous pouvez toutes les lire, c'est hyper drôle, voilà.
Oui, une autre question.
Bonjour, merci. Je ne sais pas si c'est une remarque ou une question. Est-ce que cette histoire de rationalité, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, selon vous, essayer de résoudre la porie du rationnel et de l'irrationnel en... Et c'est pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Madame Palmer. Donc, essayer de résoudre la porie du rationnel en postulant qu'il est tout à fait possible de raisonner à partir de postulats faux, comme vous le disiez à l'instant, notamment quand vous parliez de la géographie des Vikings.
D'abord, il y a une chose. Roland Lehoucq serait le premier à pouvoir vous le dire. C'est qu'il y a eu des découvertes scientifiques qui ont été faites à partir de théorèmes faux. Ça arrive souvent. Donc, l'espèce de logique, c'est vrai, on en tire des choses et tout, on peut la balayer, parce qu'à partir de théorèmes faux, on a fait des applications pratiques qui fonctionnaient. Donc, il y a une part là-dedans très, très, très mystérieuse, très étrange. J'allais dire que on a notre part d'instinct, on a notre part d'intelligence, on se balade entre les deux, souvent on donne la priorité à l'un sur l'autre. C'est un peu dommage, on a besoin des deux, mais pour moi, par exemple, quand on parle de la mauvaise place des femmes dans la science-fiction, dans le fantastique et tout depuis toujours, je me dis, non, ça c'est un complot. C'est un complot, pourquoi ? C'est parce que la fille de la plus grande écrivaine féministe autour de 1800-1810, Mary Wollstonecraft, aura une fille qui s'appelle Mary Wollstonecraft Shelley, qui va donc inventer quelque chose de nouveau, et que James Wall va prolonger plus tard avec la fiancée de Frankenstein, parce que dans les années 20, 30, 40, 50, 60, les deux écrivains les plus sauvages, ce qu'on pourrait appeler la science fantasy et tout, ces deux femmes, c'est Catherine Moore et c'est Leigh Brackett. Et Leigh Brackett, que j'ai un peu connue, m'avait dit quelque chose de rigolo un jour. Un jour, elle a été convoquée par elle disait un petit péteux qui avait fait un film de science-fiction à 3 francs, il s'appelait Georges Lucas, et il lui a dit, est-ce que vous pourriez écrire Star Wars ? Elle dit, et ce petit mec-là, comme ça, il a commencé à me raconter une histoire que j'avais écrite 20 ans avant. en disant, voilà mon idée, est-ce que vous pourriez la faire? Elle dit, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais envie de l'envoyer péter, quoi. D'autant qu'il m'a dit, est-ce que vous avez déjà fait des scénarios de films? Je lui ai répondu, oui, tous les films de War Dogs depuis Casablanca. Il dit, ah bon, ben ça va. Et après, elle dit, j'ai dit oui parce qu'il fallait refaire la toiture et que mon mari était malade. Bon, en gros, je sais que par exemple, pour Druyer, il vient de Catherine Moore, de Lay Brackett, plus que d'aucun écrivain homme. Parce qu'il y a là-dedans une espèce de partage féminin très fort à la Lilith, une espèce de partage éternel. Moi, je crois à la supériorité des femmes sur les hommes, à tous les niveaux. À partir du moment où, quand j'ai eu des coliques néphrétiques, une fois dans ma vie, je me suis tordu de douleur et que le médecin que j'ai eu, qui était une femme, manque de peau, m'a dit, vous voyez votre douleur qui vous fait vous tordre, beaucoup de femmes la subissent quand elles enfantent. Et elles supportent beaucoup mieux la douleur. Les hommes sont très douillés. Ah, je me suis dit, oui, c'est vrai, les hommes sont très douillés. Et la supériorité des femmes sur les hommes, non seulement j'y crois, mais je crois que ça a été chez beaucoup d'hommes de l'autodéfense que de vouloir parquer les femmes, les ramener à un rôle précis et tout. Parce qu'on peut avoir peur des femmes. Moi, des fois, j'ai peur de la mienne. Des fois, j'ai peur de la mienne parce que je tourne autour. Je dis oui, peut-être que, et puis elle me dit paf. Et je sais que la solution est simple et que c'est elle qui l'a. Mais je préférais faire des ronds de jambes, dire on verra ça demain, on en reparle. Alors, quand j'ai supériorité des femmes, je pense qu'à partir du moment où on accepte cette supériorité, en fait, il y a égalité. En plus, aucun couple ne ressemble à aucun couple, ni dans le même sexe, ni dans des siècles différents. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on arrive à créer un personnage intermédiaire. Et je vous dirais que l'histoire, elle finit bien, puisque moi, ça fait 27 ans que je vis avec la même femme. Ça fait 27 ans que je vis avec la même femme. Et maintenant, on fait beaucoup de télépathie. Il y en a un qui finit la phrase de l'autre.
I'd love to expand voilà. On one of the earlier stages of that comment. Because one of the things that erases those powerful women who are there in early science fiction or who are there in all those decades is the assumption that they weren't there, because we assume that women in the past were more silenced and more few and more oppressed than they were. And so often we don't bother to look for them. When someone sits down to say, I'm going to edit an anthology of 1950s SF, of course there won't be very many women writers. So that person will then not look hard for the women writers who really were there, but often didn't get, their names didn't get transmitted forward, because when someone went to make the year's best, you know, collection, they only named a couple people, and those tend to be men. And a lot of time, the existence of earlier stages of women get edited out by our own assumptions that they aren't going to be there. I've been working recently on a 1506 encyclopedia of everything. It's great. It's got everything. And it's from 1506. And it's so wrong about almost everything. I just love it. But it has a section of 120-ish little mini entries on ancient philosophers. And of those 120 ancient philosophers, 30 of them are women. Figures from antiquity who were female philosophers who are mentioned. Most of their work doesn't survive, but they're mentioned in ancient lists of philosophers and so on. And then I was looking at the 19th century update of this encyclopedia, and it removed them all because it said, of course, it's not plausible for women to have been philosophers in antiquity, so these ancient women must have been made up. They were believed in the 1600s, but not believed in the 1800s and edited out by our assumption that women must not have been there, which is related to our assumption that feminism has always been a linear increase. And therefore that if women were, let's say, 20% of writers in the 19th century people assumed there must have been fewer of them in all the earlier centuries. And never stopped to consider, well, maybe we're in a dip and there were more earlier. This also applies a lot to things like the presence of gay and lesbian people. There's so many of them in my period. And later figures assume there aren't any, because again, if your period has this many visible gay people, and you assume that moral progress is linear and that therefore there must have been more oppression and fewer of them visible earlier, you won't bother to look for them. And so a lot of the time when we look at erasure and when we talk about conspiracy theories or theories that dominate our and twist our reality, an interesting factor there is the theories we have that the past must have been more bigoted than we are, which leads us to often not notice moments when the past wasn't. And when things got worse or got worse and then better and fluctuated. Our theories that these things didn't exist erase them from existence. And that is a distortion of reality just as much as any other conspiracy theory.
Thank you. Il nous reste 2 minutes. On prend une dernière question peut-être, s'il y en a une. Oui, je vois des mains qui se lèvent.
Bonjour et merci pour tout ça. Éventuellement, une petite question qui m'est venue en vous entendant par rapport à la notion de mythe du héros. Est-ce que finalement, dans cette appétence pour le secret, est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous lecteurs une envie un peu d'être celui, ce héros, en vivant, bien entendu en se transposant dans le livre et en vivant ce livre, ce héros qui va sauver le monde, découvrir des choses que les autres ne connaissent pas?
So the long answer to this is that in collaboration with Joe Walton, I published last summer an essay entitled The Protagonist Problem. I'll say that a second time for those who want to Google it. The essay is titled The Protagonist Problem, which looks at this question. And it's interesting to note that there has been a huge increase since about 1990 in the percentage of our fiction which has a hero or a single central protagonist, as opposed to having a team in which everyone is co-equally participating, or point of view moves from person to person to person. That if you look in the earlier 20th century up until the 1970s, there were large numbers of prize-winning books which might jump from point of view over time or move over multiple generations. If you compare the old Mission Impossible television series in which every member of the team contributed co-equally to the Mission Impossible movies in which there is a central protagonist and everyone else is the support, that change is recent. That change came in the 1990s. So that at this point, something like 80% of all of the stories we read are about a hero. And before, it was, you know, less than half or about half of the stories that we read are about a hero. And when such a huge percentage of our stories tell us that one person and only one person has the power to save the day, that diminishes our belief in teamwork. It diminishes our expectation that a bunch of us collaborating, even if we don't feel like we're more special than everyone else, can nonetheless contribute. And so I think one of the major things we can do constructively is to tell more stories which have things that aren't just heroes at their heart, returning to how fiction was when it had a wider variety of structures up through the 1980s. And the essay has a longer version with lots of examples and titles and explanations of why this might be.
Mais les héros, c'est forcément des sagas épiques, le parcours de quelqu'un qui nous paraît au-dessus de tout, etc. En réalité, c'est pour le besoin de la narration. En fait, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, pendant quelques secondes, quelques jours, quelques heures, des héros minuscules. À partir du moment où tous les gens qui sont autour de nous tiennent une opinion comme convenue et qu'on apporte la contradiction et qu'ils nous écoutent, même si ça dure 3 minutes, à ce moment-là, on est le héros.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va s'arrêter ici. Je vous demande de remercier nos 3 invités.